Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans Inventaire à l'après-vert, un podcast qui vous parlera de personnes, de leur histoire, des objets qui les racontent, qui vous parlera également de l'art, des arts, de l'éducation et de la pédagogie. Bonne écoute! Chères toutes et chers tous, je vous espère en bonne forme. Alors si vous avez pris l'habitude de m'écouter, je pense que vous aurez compris que j'aime bien enregistrer mes épisodes le matin très tôt, quand la maison sommeille. C'est aussi dans des moments de grand calme que j'ai réussi à écrire des nouvelles. En fait, je faisais ça les nuits. Et j'aime bien ce sentiment que chaque personne est à sa place, que tout est calme. Alors, je ne sais pas si vous les entendrez, mais dans mon dos, les petits oiseaux s'agitent. Ils ont trouvé, ils ont élu domicile dans le lierre qui recouvre de plus en plus la maison. Et ce matin, c'est la pluie qui m'a réveillée. Alors, si on regarde une carte de France, on constate qu'il y a une grande fracture et que toute une partie de l'Hexagone passe un été un peu maussade, pas très chaud. Les plages de Vendée n'offrent pas un visage très heureux. Je ne suis pas certaine que les glaciers fassent recette. Quant au sud, malheureusement, les gens suffoquent sous une canicule effrayante. Les températures la nuit sont terribles. Et j'ai vu qu'à Calvi, où nous allons souvent l'été, un soir, on avait enregistré une température avoisinant les 38 degrés à minuit. C'est dire l'état, malheureusement, plus que très avancé du dérèglement climatique. Mais à côté de ça, évidemment, certaines personnes, et je ne citerai pas leur nom, continuent de voyager à qui mieux, aux quatre coins d'Hexagone, pour aller s'assurer que le luxe, lui, fait recette, contrairement au sorbet sur le littoral du Nord, ou peut-être de la Normandie. La dernière fois, j'ai cherché à vous amuser en vous racontant l'expérience que j'avais vécue la toute première fois où je m'étais retrouvée seule avec deux petites filles, notre aînée ayant 18 mois et notre deuxième fille ayant 3 semaines. Voilà, donc ça avait été pour moi le baptême du feu, trouver les bons gestes, l'organisation. Et quand j'ai relu ce texte, je me suis dit vraiment que l'être humain avait de grandes ressources, qu'on pouvait vraiment puiser très très loin les ressources dont on avait besoin. Et que d'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrive à trouver en soi la confiance. Si on se repose trop sur ce qui nous entoure, si on cherche toujours en dehors de soi des réponses à nos problèmes, alors on ne peut pas développer la confiance. Ça, c'est très évident et je l'ai souvent observé dans le récit de patients et de patientes qui tout seuls avaient réussi à trouver le moyen de progresser alors que véritablement les difficultés étaient nombreuses. Je vous disais aussi un peu en préambule de mon dernier épisode que j'avais été déçue par l'absence de réaction de deux personnes dont j'avais beaucoup parlé dans mes épisodes. Alors très peu de temps, j'ai reçu un mot adorable de l'un d'entre eux qui m'a dit avoir écouté, qui m'a félicité et qui a été surpris que j'ai fait un parallèle entre son écriture et la manière d'aborder la montagne quand on marche. Ce qui pour moi était assez évident quand on lit son ouvrage. Il s'agit de celui de Cédric Sapin Dufour, hein, « Son odeur après la pluie ». Donc ce livre a énormément de succès, un succès que je trouve très mérité, à la fois parce que l'écriture est magnifique, parce que le récit est beau, le récit de cette vie en accéléré que l'on connaît auprès d'un chien ou d'une chienne, que nous avons expérimenté, j'en parle souvent avec Fantôme, pendant les 12 ans et un petit peu plus de 12 ans qu'il nous a été donné de pouvoir partager son quotidien. Récemment, j'ai créé un post où j'étais fâchée parce que j'observe que de plus en plus les animaux domestiqués sont utilisés à nos seules fins, à des seules fins visant en fait à soulager les deux pattes, hein, qu'il s'agisse de personnes qui souffrent de solitude, de personnes qui souffrent de douleurs physiques, morales, qu'il s'agisse du rôle maintenant dévolu aux chiens dans les prétoires, hein, pour aider la parole à être délivrée. Enfin, les animaux rentrent dans les maisons de retraite, les animaux, on apprend aux animaux à anticiper les crises d'épilepsie. On sait depuis la nuit des temps ou presque, on peut utiliser l'animal pour retrouver une personne disparue, pour porter secours à des gens perdus en montagne. Voilà, donc ça fait très 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 longtemps que l'homme utilise l'animal à des fins qui lui sont entièrement dédiées. Et je pense qu'on se donne bonne conscience en disant « Oh, ils aiment tellement nous faire plaisir ». C'est ça en fait qu'ils veulent, nous faire plaisir. Mais qu'est-ce qu'on en sait en fait ? Je pense que surtout les animaux ont une empathie incroyable et qui veulent en effet nous faire plaisir. Comme on voit des enfants qui n'étaient pas forcément inscrits dans le parcours de leurs parents, eh bien remuer ciel et terre pour leur faire plaisir, pour ne jamais leur faire penser qu'ils auraient pu, ils auraient eu raison de ne pas les avoir. Eh bien, je pense que les animaux, portés par une empathie énorme, sont toujours désireux de nous faire plaisir. Et en fait, l'homme utilise l'animal toujours à des fins, très souvent à des fins personnelles. Et d'ailleurs, j'ai parfaitement conscience aussi, alors c'est absolument pas du tout ce qui nous a guidés et ce qui a motivé l'entrée de fantômes dans notre vie, c'est vraiment, mais ceci dit, durablement, fantôme a été pour moi un réparateur d'une vie dans un environnement très inhospitalier, où j'étais en proie, non pas de la solitude, ça la solitude c'est, je sais très bien qu'on posait avec la solitude, non, avec l'isolement. Et l'isolement, ça c'est terrible, vraiment terrible. Et c'est, ça n'a strictement rien à voir avec la solitude. Mais très très vite, voilà, notre relation n'était pas du tout une relation liée à la verticalité, mais tout en horizontalité. Et c'est vrai, nous n'avons jamais cherché à dresser fantôme. On n'avait pas du tout envie d'en faire un chien de salon. Il n'allait jamais dans un salon de toilettage d'ailleurs. On le lavait une à deux fois maximum dans le jardin. Et d'ailleurs, il détestait ça. Ensuite, il allait se rouler dans l'herbe, dans les graviers. Il ressemblait à un cochon corse après une nuit d'orage. On ne lui a pas appris à faire le beau. On ne lui a pas appris à, voilà, finalement, à nous narcissiser en pouvant le montrer en spectacle. Non, on l'a laissé tranquille. Alors c'est Victoire qui aimait bien lui faire faire des parcours, mais ça c'était très ludique. Et ça l'amusait, ça vraiment ça l'amusait. Alors la seule chose que j'ai cherché à lui apprendre, et d'ailleurs avec succès, c'est que nous, pendant très longtemps, hein, tant que sa jeunesse le permettait, on partait sillonner le plateau, moi à vélo, et lui m'ouvrait la voie ou était à mes côtés. Il y avait des portions qui étaient sur des axes empruntés par des voitures. Ça peut être des petites routes, les gens ici roulent très vite. Et donc j'avais simplement appris à Fantôme à anticiper l'arrivée des voitures, à s'arrêter, à se mettre sur le bord de la route et à attendre que la voiture passe. Et il le faisait admirablement bien. Donc en fait, l'animal n'est pas là pour nous. Et d'ailleurs, encore une fois, cet été, les refuges sont affolés de voir arriver autant d'animaux abandonnés. Et c'est vraiment pour moi impensable de faire entrer un animal dans une famille, de l'entourer, de le choyer, de lui faire des câlins et quelques mois plus tard, de l'abandonner sur une aire d'autoroute au fond d'une forêt. C'est absolument ignoble de faire des choses pareilles. Alors aujourd'hui, eh bien, puisque la période s'y prête, je vais relire pour vous une chronique que j'ai écrite le 26 juillet 2017. Alors ce qui a changé par rapport au contenu de cette chronique, eh bien c'est que nous n'avons plus fantômes, nous n'avons plus de poissons rouges. contrairement à ce que j'indiquais, notre maman est revenue à plusieurs reprises prendre soin des animaux, justement pour nous permettre de partir en Corse l'été. Parce que la Corse, avec un berger australien, c'est terrible pour lui. Il fait trop chaud. C'est vraiment, vraiment difficile. Et puis, c'est vrai aussi que le transport n'est pas toujours non plus une chose évidente. Alors voilà, cette chronique s'intitule « Chronique d'un été entre Haute-Corse et Gare ». Les murs sont vertes. Le compte à rebours de l'été a commencé, me glisse Stéphane, alors que nous nous promenons à vélo dans une campagne dorée de fin de journée, de fin de moisson. Je n'avais jamais associé les fruits verts des murs à la mort annoncée de l'été. Elle m'évoque plutôt de belles fins de journées ensoleillées, beaucoup de gourmandises, les rires des enfants, les vêtements prisonniers des ronces, les mollets griffés et des ongles et des langues d'un beau violet sombre. Le 4 août, nous nous envolerons avec notre fils Louis pour la Haute-Corse. Nous y retrouverons une mamie, nos deux filles, Céleste et Victoire et leur cousine Louise. L'avion de ma sœur et de ses deux enfants se sera posé sur le tarmac de l'aéroport de Sainte-Catherine quelques heures avant le nôtre. C'est ma mère qui viendra s'installer chez nous pour veiller sur Fantôme, Sucrète 4, et arroser le jardin. C'est la dernière fois que nous la sollicitons de la sorte, le temps file. Nous ne voulons pas l'empêcher de profiter de sa maison dans le Gard. L'été prochain, nous partirons avec Fantôme. Et c'est en effet ce qui s'est passé, nous sommes partis avec Fantôme en avion. Et ça a été pour Fantôme une expérience traumatisante. Et je pèse mes mots. Stéphane et moi sommes vraiment à fond de cale. Je suis une femme épuisée et une thérapeute sur le flanc. Souvent, en riant, je me dis que j'ai 20 ans de retard de sommeil. C'est presque la vérité. Comme quoi, l'être humain possède des ressources incroyables. Prendre soin des personnes qui viennent me voir, m'assurer que je vais tout mettre en œuvre pour qu'elles se sentent vraiment mieux, les écouter avec bienveillance. Et lors de la première partie de la séance de sophrologie qui consiste, par la détente, à modifier l'état de conscience, ne pas perdre le fil. Tout ceci devient difficile. Je commence à ranger la maison, à remettre de l'ordre dans les jouets de Louis. Il me reste encore à m'acquitter de ma décision trimestrielle de revenus. Comme mon agenda s'arrête à la fin août et que nulle part je ne parviens à m'en procurer un autre, j'en suis réduite à écrire mes rendez-vous sur le calendrier des éboueurs, des hommes charmants que je crois souvent le mercredi matin avec Fantôme. Cela fait sourire mes patients qui, avec moi, n'en sont plus à une originalité près. Mes patients sont des êtres merveilleux et les anciens, ceux qui pourraient maintenant se passer de nos séances, mais qui me restent fidèles, veulent s'assurer que le rendez-vous du retour des vacances ne me bousculera pas trop, que j'aurai eu le temps de défaire les valises, de faire tourner les machines, de remplir les trois cartables des enfants avec les nouvelles fournitures scolaires. Ces attentions, qui me touchent beaucoup, sont liées au fait que j'ai aménagé mon cabinet à l'étage de notre maison et que notre petite vie de famille s'offre avec naturel à la vue de celles et de ceux qui en franchissent le seuil. Les chaussures dans l'entrée, les cartables abandonnés, les manteaux avachis sur des fauteuils, les billes, les Playmobil, les petites voitures sur les tapis, les poils de fantômes, les odeurs de gâteaux, tout ceci crée une intimité qui n'est jamais un frein au bon déroulement de l'accompagnement, bien au contraire. Par ailleurs, dès la porte du cabinet refermée, une petite porte qui fait penser au voyage d'Alice au Pays des Merveilles, le temps suspend son vol pour qu'une confiance totale s'instaure. On ouvre un autre espace-temps, fait de voyages dans le passé, au présent et dans le futur. Mes patients sont ravis que je parte en vacances. Ils sont heureux quand j'ai bonne mine et désolés quand j'ai les traits tirés. Nous allons retrouver la Haute-Corse, le petit village en pierre de Lumio, accroché à flanc de montagne et dominant la baie de Calvi. Je vais renouer avec mes marches matinales chargées en parfums délicieux. C'est le matin, au moment où le soleil essaie de faire glisser ses rayons de l'autre côté de la montagne, que j'ai le plus de plaisir à déambuler. Il fait frais. Je profite de l'humidité de la nuit. Tout est calme. La chaleur monte vite, trop vite, et elle tue les odeurs et les couleurs. L'an prochain, nous retournerons avec Fantôme en Corse, et avec lui, je n'hésiterai pas à m'aventurer plus loin sur le sentier qui rejoint les ruines d'Ochi, là où nous avions vu ce splendide patou. D'ailleurs, c'est ce patou qui... m'avait vraiment donné envie de faire entrer un chien dans notre famille. Dans les semaines qui suivaient, Stéphane m'offrait mon quatrième enfant, un enfant tout poilu, regard tendre, fantôme. En Balagne, nous allons retrouver la joie des bains de mer, les sorties en zodiaque, les promenades dans les petits villages, les rues animées de Calvi, les grandes tablées, les pique-niques sur la plage. Les peaux vont se haler, les cheveux vont s'éclaircir, les traits du visage seront plus lisses. Qui sait ? Cette année, nous réussirons enfin à aller boire un verre au Tao, au lieu de la vie nocturne calvaise, située dans la citadelle et fondée par un russe blanc. Je suis heureuse de retourner en Haute-Corse, mais je suis un peu triste de ne pas aller dans le Gard, de ne pas retrouver la bonne et vieille maison de Pont, où nous ne restons jamais plus d'une semaine. Une semaine. C'est si court pour retrouver des êtres et des lieux qu'on connaît depuis si longtemps. Pas de café avec les habitués, pas de marché sur les allées, plantées non plus de platades, mais de micocouliers, de journal acheté à la maison de la presse, de marche le long du Rhône face au Ventoux, de confiture d'abricots, de sachets de lavande, de promenade dans l'Ardèche et d'hirondelles pour me réveiller le matin. Alors je vous donne à lire une chronique que j'ai écrite à la fin de l'été 2009, dans laquelle je raconte des souvenirs d'enfance, l'été en Provence. Une époque sans bateau de fortune transportant des centaines de migrants désespérés, sans attentats terroristes en Europe, sans faux états d'urgence, sans indécentes polémiques autour de l'horreur de Nice. Une époque révolue. Quand nous quittions l'autoroute à hauteur de Bolène, la journée était déjà bien avancée. Après des heures d'un ennui mou, nous reprenions vie. Une belle fumée blanche s'élevait dans un ciel limpide, au-dessus des réacteurs nucléaires. Au Tricastin, des ingénieurs à l'esprit recycleur n'avaient pas encore songé à faire patauger par centaines des crocodiles dans les eaux chaudes de la centrale. À cette époque, qui aujourd'hui me semble presque préhistorique, de la terre sèche des champs environnants n'avaient pas encore surgi les corps élancés des éoliennes blanches, remuant leurs grands bras et cherchant à séduire le vent tempétueux du couloir rhodanien pour en capter la force. Le paysage ne portait pas davantage les cicatrices modernes des ouvrages édifiés pour mettre les Parisiens à 2h40 du Festival d'Avignon et des bastilles nichées autour du Zès et les criques phocéennes à 3h des ponts enjambant la Seine. Nous étions au début des années 70, autant dire au siècle dernier. C'est avec une immense joie, doublée d'une légèreté retrouvée, que la voiture s'élançait à l'assaut des derniers kilomètres de route, jalousement protégée par deux allées de platanes somptueux dont les frondaisons s'entremêlaient avec lascivité. Le bleu de la lavande commençait à passer et les cœurs de tournesol étaient déjà bien secs. Plus de cerises dans les arbres, mais des pêches, des abricots, des nectarines et des amandes fraîches. Enfin, nous roulions au-dessus des arches du vieux pont et nous contemplions la ville. Nous savions le Ventoux dans notre dos, mais ne cherchions pas à le découvrir à ce moment-là. Nous étions si heureuses de retrouver notre bonne et vieille maison de pont. Nous l'avions quittée à Pâques et nous la laisserions début septembre pour ne la retrouver qu'à Noël. Le bois, peint en bleu, de la porte, avait joué. Sur les carreaux de l'entrée, un amas de réclames en tout genre, dont les feuilles déjà jaunies étaient couvertes par la poussière fine des berges du Rhône, soufflée au-dessus des toits de la ville par jour de grand mistral. Nous prenions d'assaut le bel escalier à vis et nous nous précipitions dans nos chambres. Encore aujourd'hui, il m'est impossible de mettre des mots sur l'odeur si particulière qui plane dans cette maison et qui est tout sauf une odeur de renfermé ou d'humidité, propre aux maisons de campagne situées au nord de Valence. À cette indéfinissable odeur s'ajoutait l'impression d'une vraie présence, celle sans doute des âmes de nos arrière-arrière-grands-parents. Les araignées avaient eu largement le temps de reprendre leurs habitudes et la poussière s'était insinuée à peu près partout. Des couples d'hirondelles avaient élu domicile dans l'escalier de la cour intérieure menant à la cave. Notre mère avait besoin de 3 jours pleins de nettoyage pour enfin commencer en lâchant la pression à se sentir un peu chez elle. Pendant ces fameux 3 jours, toute communication entre elle et nous devenait impossible. Les jours s'écoulaient tranquillement entre bains dans l'Ardèche, après-midi à la piscine municipale de Pierrelatte, excursion dans les villages alentours, pique-nique dans la garrigue avec cueillette de thym frais qui irait bientôt rehausser des rades sautées, concert de musique classique et quelques journées en Camargue sur la grande plage de l'Espiguette. À cette époque, la rue de notre maison était encore relativement commerçante. Les enseignes de la grande distribution n'avaient pas encore tué ce que personne ne pensait alors à appeler des commerces de proximité. Juste en face de la maison, l'épicerie d'Angèle, où nous adorions faire des emplettes. Je me trompe peut-être, mais je crois me rappeler que la porte d'entrée de la boutique dégringolait ses longues et rigides langues de plastique vert, destinées à empêcher les stations prolongées des mouches, au-dessus des plateaux de fruits mûrs et des petits fromages de chèvre, bien transpirants en fin de journée. La rue comptait aussi son boulanger-pâtissier, un monsieur d'origine arménienne ayant survécu au génocide. Le pain ne m'a pas laissé de souvenirs indélébiles, souvent mous d'ailleurs en fin de journée, les brioches et les meringues si. Les brioches étaient toutes petites et leur mie incroyablement fondante. Nous avions aussi un boucher, un cordonnier et une marchande de souliers. Plus haut encore, la dame de la presse, sorte de femme à barbe assez repoussante, capable de jurer tant en français qu'en provençal. Son vieux chat noir au pelage mité dormait au milieu des livres de la vitrine. Une vilaine cataracte avait éteint son œil gauche, mais le droit pétillait pour deux. Elle avait ses têtes, et par bonheur nous en étions. Un été, j'ouvre une parenthèse, notre père avec lequel elle entretenait des relations tout à fait privilégiées, lui avait demandé, ou plutôt il s'était proposé de l'aider. Et il passait une partie de ses journées avec cette dame qui s'appelait Denise, si je ne me trompe pas, et dans la maison de la presse. Dans les premiers temps des vacances péripontaines, nous nous amusions bien. Puis venait toujours un moment où les journées semblaient plus longues. Alors nous nous mettions à tourner en rond dans la grande et vieille maison dont nous avions poussé la porte avec tant de joie au début de l'été. Hormis deux petites voisines habitant de l'autre côté de la rue, nous n'avions pas d'amis et peu de cousins géographiquement proches pour échapper à cet ennui qui s'abat sur certains enfants au creux de l'été. Nous étions las, à l'heure où la grande chaleur condamne les Provençaux à la sieste, à l'ombre de leurs volets, de confectionner des objets en pâte à sel, de fabriquer des petits sachets de lavande. Nous étions fatigués des promenades le long des murets de pierres sèches, dans lesquelles nous finissions toujours par contrarier le sommeil d'une vipère. C'est dans ces moments-là qu'avec une impatience grandissante, je commençais à espérer l'arrivée des forains. Et puis, un matin, mon rêve était exaucé. Il avait pris possession des allées du Midi et du Nord, reléguant le grand marché du samedi matin du côté de la gare. Leurs maisons mobiles et leurs attractions bariolées encerclaient la petite ville en une sorte d'immense bois. Il m'a toujours semblé que les forains étaient perçus avec hostilité par les citadins. J'imagine que si on disait ne pas envier leur mode de vie, on ne pouvait pas s'empêcher de jalouser quand même un peu leur liberté. Tandis que les hommes, rapidement torse nu, montaient avec une apparente facilité les lourdes structures métalliques des attractions, les femmes, flanquées de leurs enfants, partaient en direction du beau lavoir, situé presque en dehors de la ville. Au retour d'une cueillette de mûres, le dessous des ongles imbibés de cire noire, les jambes couvertes de mille zébrures fines, les cheveux en bataille et décolorés par le soleil, j'aimais bien m'arrêter à l'ombre odorante d'un figuier pour les regarder. Les femmes plongeaient leurs bras dans l'eau fraîche jusqu'aux coudes. Les vêtements étaient savonnés sur les pierres plates, et polis par des générations de labeur, puis, battues et rincées, les femmes chantaient et riaient. Rien de tel que la gaieté pour s'alléger des tâches les plus dures. Les enfants s'éclaboussaient, certains se risquaient même à entrer dans l'un des deux longs bassins du lavoir. Le linge était ensuite étendu sur des rangées de fils. Les enfants jouaient entre les vêtements et leurs silhouettes dessinaient des ombres mouvantes sur les tissus blancs, parfumés au savon de Marseille. J'aurais bien aimé entrer dans leur danse, mais je n'ai jamais osé. À la tombée de la nuit, notre père nous emmenait à la fête foraine. Nous naviguions, légèrement drogués, entre les odeurs de barbe à papa, de beignets ruisselants de graisse, de pommes d'amour écœurantes, les musiques s'échappant des attractions, les concerts de klaxons, des autotamponneuses, les exhortations des forains à venir ressentir dans le bateau pirate, le grand frisson, à connaître dans le train fantôme ou la maison hantée une intense frayeur, à hurler de rire dans le palais des glaces, sorte de labyrinthe aux vers déformants, et emporter une peluche géante au tir à la carabine ou une babiole 100% pétrole à la pêche au canard. Dans mon souvenir, les femmes de forain étaient le plus souvent décolorées en blond et leurs talons étaient si hauts qu'ils donnaient le vertige. Tous les hommes semblaient fumer cigarette sur cigarette. Quant aux enfants, quel contraste saisissant entre les scènes de légèreté du matin au lavoir et le sérieux des visages qu'ils affichaient depuis que les manèges avaient commencé à tourner, à briller de mille feux, à s'élever au-dessus des tuiles des toits des maisons. Ce n'étaient plus des enfants, mais des adultes en miniature, tirant fierté de l'aide apportée à leurs parents. Des petites filles de nos âges, voire plus jeunes, récupéraient les tickets avant le début des tours. Leurs traits étaient figés, et des cernes bleutées tombaient au-dessus des pommettes. De jeunes garçons réarmaient les carabines. On assistait toujours à la scène d'un tout petit hurlant depuis le cheval, la voiture, l'hélicoptère, sur lequel des parents, croyant lui faire plaisir, l'avaient installé, aux caprices de ceux qui pleuraient, non pas parce qu'ils avaient peur du manège, mais parce qu'ils ne voulaient plus en descendre, d'adultes redescendant, le cœur au bord des lèvres, d'une des nouvelles attractions répondant au « plus vite, plus haut, plus fort ». Longtemps après que nous ayons quitté la fête, nos oreilles bourdonnaient et le sentiment d'être toujours en dehors de la réalité persistait. Nous finissions par nous endormir au son des clameurs de la fête et de la foule. Au vieux lavoir, les yeux censés lancer des éclairs des deux visages de Poséidon, sculptés dans une pierre aussi blanche que tendre, et protégés par quatre tridents, se fermaient. Derrière les paupières froides, le souvenir de femmes et d'enfants, s'égayant au-dessus de l'eau claire et fraîche de ces deux bassins. Voilà, j'aimais vraiment ces moments de fête foraine avec notre père. Notre mère ne nous y emmenait jamais, elle détestait ça. Elle détestait la foule, le bruit, la rumeur. Et quand j'ai eu des enfants, eh bien, j'ai fait ce qu'on est nombreux à faire. Eh bien, j'ai mis mes pas dans ceux de mon père, qui lui n'était plus là, pour pouvoir emmener éventuellement nos enfants à la fête foraine. Et je les ai fait monter dans les attractions et je les ai attendus devant la maison hantée. Et j'ai guidé leurs bras quand ils voulaient faire exploser des ballons avec les plombs des carabines, et je les ai vus tournicoter dans ces espèces de grosses bulles flottant sur l'eau dans lesquelles on crève de chaud. Voilà, j'ai fait de mon mieux moi aussi pour leur offrir ces bonheurs. Ici, la fête foraine, c'est quelque chose d'excessivement rare. Il y en a une pour la fête de la Pentecôte dans un petit village où se tient aussi une guinguette incroyable qu'on appelle le Festivox et qui n'existe que parce qu'il y a des bénévoles pour donner de leur temps et faire en sorte que tout le monde passe un bon moment. Et puis, il y en a aussi une, au moins deux fois par an, qui se tient sur le Paty, qui sert aussi normalement de grand parking à Montargis qui se relève après avoir été si blessé au moment des émeutes. Alors il y a des immeubles qui ont été complètement rasés. À nouveau, on peut circuler partout dans la ville. Mais voilà, tout le monde a à cœur d'avancer. Et tant qu'on avance, on est vivant. Alors je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Si vous êtes sur les routes au moment du grand chassé-croisé de ce week-end, eh bien, prenez votre mal en patience, arrêtez-vous, ou alors si vous le pouvez, quittez les autoroutes, la France est belle. Vraiment, ça vaut le coup. Merci pour votre écoute et je vous dis maintenant à la semaine prochaine pour le dernier épisode, eh bien, avant la pause pour nous estivale.